Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Une famille entière, les trois ADEC, tués en 2017 à Orvault, près de Nantes. Le procès d'Hubert Caouissin s'est ouvert ce matin. Il nie avoir eu l'intention de les tuer. L'affaire Omar Radad va-t-elle être relancée? De l'ADN inconnu a été retrouvé sur les lieux du crime et les fameuses lettres de sang. Dans 5 minutes, question à l'avocate d'Omar Radad. Près d'un quart des centres de vaccination fermeront cet été en Île-de-France. Ils resteront ouverts en Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup de doses disponibles, fait savoir par ailleurs l'agence de santé. Les régionales, trois éclairages dans ce journal. Le candidat d'extrême droite Thierry Mariani en campagne à Aix. La réunion ce matin entre Jean Castex et les députés En Marche après l'échec de dimanche. Et la gauche qui ne s'en sort pas si mal au plan national. Et puis cette question, comment renouer le lien entre les politiques et les électeurs après l'abstention massive de dimanche? J'attends vos questions, réflexions, témoignages dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. Nous serons à 13h30 avec le spécialiste en communication politique, Philippe Moreau-Chevrolet. Dans l'actualité encore, la grève reconduite à Europe 1. La météo à nouveau orageuse. À Beauvais, la nuit dernière, il est tombé en 2 heures, l'équivalent d'un mois de pluie. Cette dame n'avait pas vu cela depuis 70 ans.
C'est que 3h du matin, j'ai dû éponger les pièces là. Et puis là, j'ai d'aller à la cave, c'est plein d'eau de la cave. 12 à 15 cm.
Un jeune homme de 17 ans est porté disparu. L'état de catastrophe naturelle bientôt déclaré. Le bulletin météo d'Élodie Calac à la fin de ce journal. Vos rendez-vous après 13h30. La page d'histoire du jour avec Jean Lebrun, l'opération Barbarossa il y a 80 ans, la Seconde Guerre mondiale. Le feuilleton, une semaine avec les assistantes sociales de Trappe. Et puis avec Frédéric Pommier, un grand classique de la comédie musicale. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Dans beaucoup de familles, il y a des affaires d'argent et des rancœurs, voire des haines recuites. À quel moment cela peut-il basculer dans l'horreur ? C'est une des questions au procès qui s'est ouvert ce matin devant les assises de Nantes. Procès d'Hubert Caouissin. Il est accusé d'avoir tué les 4 membres de la famille Le Troadec, le père, sa compagne et ses 2 enfants, en février 2017 à Orvault, près de Nantes, avant de s'acharner sur leur corps dans l'espoir de faire disparaître les traces du quadruple crime. La compagne d'Hubert Caouissin, Lydie, est une Troadec. Les 2 étaient convaincus que Pascal Troadec avait volé un trésor de lingots d'or. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
En direct de la cour d'assises de Loire-Atlantique, le procès s'est donc ouvert ce matin. Hubert Caouissin a déjà dit quelques mots et on a une idée plus précise de sa ligne de défense.
Oui, crâne dégarni, polo bleu marine, Hubert Caouissin s'exprime d'une voix sonore. Il a aujourd'hui 50 ans, il est en prison depuis 4 ans. Profession avant les faits, technicien à l'Arsenal. Aux côtés de son ex-compagne Lydie Troadec, une femme menue aux longs cheveux bruns, il écoute avec attention. Le résumé des faits est terrible. Dans la salle, une des sœurs de Brigitte Troadec essuie une larme à l'évocation du démembrement des victimes. Reconnaissez-vous l'intention homicide ? Interroge la présidente. Hubert Caouissin répond immédiatement non. Et l'atteinte à l'intégrité des cadavres ? Oui. C'est sa position depuis le début, rappelle son avocat maître Patrick Larvor.
Il est pas juriste, hein, monsieur Caouissin, il a toujours indiqué que lorsqu'il est arrivé à Orvault, il n'avait pas l'intention de venir tuer tout le monde. Mais on aura l'occasion d'en reparler devant la cour d'assises. Quand on est accusé devant une cour d'assises, c'est toujours très compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'il a l'air assez calme et je pense qu'il a envie de s'expliquer en tout cas.
Les psychiatres ont diagnostiqué chez Hubert Caouissin un délire paranoïaque. À la barre depuis 1h30, son ex-compagne Lydie Troadec charge sa barque. Non, elle n'a jamais eu de colère contre son frère Pascal. L'histoire de l'or, aujourd'hui elle n'y croit plus. La présidente lui rappelle les surnoms de crapule et grosse dondon dont ils avaient affublé son frère et sa belle-sœur. C'est Hubert, dit-elle d'une voix placide. L'accusé lui lance un bref regard noir avant de baisser les yeux dans le box.
Corinne Audouin en direct des Assises de Nantes avec Yves Lehorse pour France Inter. L'examen de la personnalité d'Hubert Caouissin, ce sera à partir de demain en principe. Une des questions clés du procès sera sa santé psychiatrique. Selon les psychiatres, son discernement était altéré, pas aboli au moment des crimes présumés. Cette affaire-là date de 1991. C'est l'une des plus célèbres de la chronique judiciaire. L'affaire Omar Radad. Il y aura 30 ans demain. Le corps de Guylaine Marchal, riche propriétaire d'une villa à Moulins, a été retrouvé dans le sous-sol de la maison des Alpes-Maritimes, sur 2 portes à proximité, 2 inscriptions tracées avec du sang de la victime. Omar m'a tué, E-R, et Omar Maté. Omar, c'est le jardinier de Guylaine Marshall, Omar Radad, condamné à 18 ans de réclusion en 94, sans preuve formelle, puis gracié en 98 par Jacques Chirac à l'époque, sans être innocenté. 30 ans après les faits, cette affaire va-t-elle être relancée? Selon une analyse, l'un des ADN retrouvés sur le message Omar Maté correspond à un profil génétique inconnu jusque-là. Invité de ce journal, l'avocate d'Omar Radad, maître Sylvie Noakovitch. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors ce rapport, c'est un rapport d'un enquêteur privé à votre demande. Vous confirmez bien qu'il est...
Non, c'est un expert.
C'est un expert privé. Un expert
près de la cour d'appel.
Près de la cour d'appel, mais à votre demande, à la demande de la défense, c'est ça que je voulais dire.
Oui, mais il n'y a pas que celui-là. Le rapport du docteur Pascal, qui avait été missionné par M. Godos, est tout aussi important.
Alors, question essentielle. Vous confirmez que ce rapport établit qu'un ADN jusque-là inconnu a été retrouvé sur le tracé des lettres Omar Maté. C'est bien cela?
Absolument. En fait, ces deux rapports sont essentiels puisqu'on découvre la présence déjà de 4 ADN mélangés au sang de la victime, dont un avait matché avec le FNAG, le fichier national des empreintes génétiques. Mais surtout, effectivement, ce que vous disiez à l'instant, une empreinte masculine a été retrouvée sur la porte de la chaufferie à 35 reprises et uniquement sur et à proximité des écritures ensanglantées et jusqu'à la fin de l'écriture. Donc, pour refuser, il faut le savoir, de réviser, la Cour de révision en 2002 avait indiqué que même si les experts réfutaient désormais qu'on puisse affirmer qu'il s'agissait de l'écriture de Madame Marshall, cette écriture présentait des caractères évanouis et pouvait laisser penser, d'après la Cour, qu'il s'agissait de Madame Marshall. Aujourd'hui, grâce à cette expertise, on constate que ce n'est plus possible, cet argument n'est pas recevable, puisque véritablement, il y a le même ADN à 35 reprises sur les écritures ensanglantées.
Est-ce que cet ADN correspond à un profil qui existerait dans le fichier national des empreintes génétiques?
Alors, de toute façon, les expertises sont en cours devant le parquet de Nice. Il faut savoir que c'est toujours en cours et qu'il y a le parquet général également d'Aix-en-Provence qui s'en occupe. Donc, j'attends des résultats. Ça fait quelques années, depuis la promulgation de la loi du 20 juin 2014 qui permet désormais aux avocats de réclamer des actes préalablement à la saisine de la Cour de révision, eh bien, ces actes sont toujours en cours. C'est très long, la justice est très longue, il faut le savoir. Alors que quand on est sur une scène de crime, quand on est dans une période de flag, eh bien, on retrouve tout de suite, on a les résultats très rapidement.
À propos de justice,
pas le cas dans cette affaire-là.
À propos de justice très longue, Madame Noakovitch, l'un des deux rapports date de 2019. Comment se fait-il qu'on ait les détails seulement en 2021, maintenant?
Eh bien, tout simplement parce que j'attendais les résultats définitifs de toutes les expertises parce que j'étais toujours dans mon espoir qu'on puisse donner un nom, enfin un ou des noms du véritable assassin. Donc là, comme je vois que les expertises sont toujours en cours et que la justice est extrêmement lente, eh bien j'ai décidé avec mon client Monsieur Omar Radad de saisir la cour de révision car je détiens des éléments suffisamment importants pour qu'il y ait révision. Vous avez pu constater que je suis soutenue également par le co-rapporteur de la loi du 20 juin 2014, Monsieur Georges Fenech, qui également a porté cette nouvelle loi du 20 juin 2014. Et bien sûr, la notion de doute a été tout à fait précisée par cette loi. Et désormais, la Cour de révision doit absolument réviser dès lors qu'il y a un doute.
Mais vous n'attendez pas d'avoir une identité?
Mais moi, je ne suis pas la justice. Moi, je voulais avoir une identité, on va en avoir, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la Chambre de l'instruction libre à elle de désigner, effectivement, de continuer à aider le procureur de Nice à trouver, effectivement, à qui appartiennent ces identités. Mais moi, mon rôle, le rôle d'avocate d'Omar Haddad, c'est de le blanchir, c'est d'obtenir son acquittement, d'avoir un deuxième procès, il y a le droit. Maintenant qu'il y ait effectivement, qu'on sache à qui ça appartient, bien sûr que ça nous intéresse, bien évidemment.
Et vous la déposez quand, la demande de révision?
Pardonnez-moi.
Vous la déposez quand, la demande de révision?
Alors, je dépose la date officielle du dépôt de la demande en révision, c'est jeudi prochain. Ce jeudi à 11h30, bien sûr, tout le monde pourra venir, les journalistes pourront venir poser des questions. Il n'y a pas de souci. Après-demain, date anniversaire de la mort de Madame Marshall. Donc, ce sera précisément jeudi 24 juin.
Merci, maître Noakovitch, d'avoir répondu à nos questions. Dans l'actualité encore, 18 plongeurs, des drones, des maîtres chiens, des moyens de recherche importants mobilisés à Beauvais. Mais pour l'instant, aucune nouvelle du jeune homme de 17 ans emporté disparu après les orages de la nuit dernière. Il est tombé en 2 heures, l'équivalent d'un mois de pluie. L'état de catastrophe naturelle devrait bientôt être déclaré, ainsi qu'à Reims et dans le sud de l'Aisne. On fait le point sur cette météo très orageuse avec Élodie Calac à la fin de ce journal.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Et le nombre de malades hospitalisés pour Covid continue de diminuer. 10 400 hier, 1 700 en soins critiques. La pression retombe, un signe net. Le patron des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, s'engage à ce que la très grande majorité des soignants aient 3 semaines de vacances consécutives cet été. Oui, ça va mieux, constate Martin Hirsch au micro de nos confrères de France Info.
Non, on n'est pas à l'abri du rebond. On est dans une phase de décroissance dont on se réjouit. Pour avoir les données à l'esprit, hier, pour la première fois, on est en dessous du niveau qu'on a atteint le 1er octobre dernier. Donc on sort de 9 mois de deuxième et troisième vague. Donc ça va mieux. Les choses s'améliorent très nettement, ça baisse. On peut pas dire que 100% des indicateurs soient au vert. On a toujours quelques foyers qui sont présents. On a à peu près 4 clusters. Alors avant, on pouvait en avoir 70. Donc le virus existe toujours. Il existe à bas bruit, il diminue. Et comme vous le savez, une grande partie de notre sort est entre les mains de notre choix de nous vacciner.
Le patron de la PHP, Martin Hirsch, sur France Info ce matin. Une actualité dans la stratégie de vaccination. Comment empêcher le variant Delta ou variant indien de se disséminer? Pour l'instant, en France, il n'a été repéré que dans 7% des cas de Covid. La Haute Autorité de Santé, Daniel Messager, recommande ce qu'elle appelle une stratégie réactive. Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, ça signifie vacciner largement et rapidement. Largement, car lorsqu'une personne est infectée, il faut limiter au maximum la transmission. C'est donc l'ensemble de l'entourage qui va être vacciné. Et l'ensemble, ce n'est pas juste la famille ou ceux qui vivent sous le même toit, mais aussi toutes les personnes côtoyées dans un cadre professionnel, dans le cadre d'une fac ou d'une école. Très rapidement, c'est dès le premier cas d'infection par un variant qu'il faut réagir. Et comme ça peut concerner nombreuses personnes, la Haute Autorité de Santé préconise la mise en place d'équipes mobiles ou de petits centres de vaccination éphémères à proximité du lieu fréquenté par le ou les patients contaminés. Comme ça s'est passé lors de clusters à Brest, Bordeaux et plus récemment à Strasbourg, à la Haute École des Arts du Rhin, des doses supplémentaires ont été envoyées pour vacciner même les personnels des bars à proximité. Quel vaccin utiliser dans le cadre de cette vaccination réactive? La HAS estime qu'il faut privilégier les vaccins à ARN messager qui offrent une meilleure protection contre les variants que le AstraZeneca. Le variant Delta est beaucoup plus transmissible, autour de 60% plus contagieux, ce qui explique la mise en place de cette politique réactive.
À propos de vaccination, région parisienne, les centres de vaccination, une partie, près d'un quart d'entre eux, fermeront le temps des vacances du 5 juillet au 29 août. Ils ne fermeront pas en Seine-Saint-Denis. Le chef de la majorité s'est-il trompé de stratégie pour les régionales? Question aussi pour le président de la République et ses conseillers. Mais c'est Jean Castex qui faisait face à ses troupes ce matin à l'Assemblée. Réunion de groupe, La République en marche, après des élections régionales ratées. Le parti présidentiel éliminé dans 3 régions de métropole, Occitanie, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, et en position de l'emporter dimanche prochain dans aucune. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
Que s'est-on dit ce matin lors de cette réunion?
Écoutez, tous les grands chefs étaient présents d'abord, hein. Jean Castex évidemment, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, était là également, sans oublier bien sûr Stanislas Guérini, le patron du parti. Alors qu'est-ce qu'il s'y est dit? Eh bien, tous ces responsables sont apparus incroyablement dans le déni. Certes, Richard Ferrand a reconnu que la défaite était immense dimanche pour La République En Marche, mais le Premier ministre Jean Castex a lui préféré expliquer que l'abstention, la très forte abstention, permettait finalement de relativiser les résultats. Pas si grave donc, des résultats qui ne sont absolument pas liés à Emmanuel Macron, a-t-il tenu également à souligner. Reste Stanislas Guérini qui s'est lui satisfait d'assez bons résultats pour la REM aux élections départementales. C'est ce qui s'appelle de la méthode Coué. Alors que je peux vous dire que le petit déjeuner de la majorité ce matin ne s'est pas très bien passé. La République En Marche accusant une nouvelle fois le Modem de négociations toujours trop ardues et tendues quand il s'agit de constituer les listes. Drôle d'ambiance donc, et drôle d'ambiance aussi à la réunion de groupe des députés centristes, en présence de François Bayrou. Les députés Modem ne veulent plus être considérés comme des élus macronistes. Il faut redéfinir, réorganiser la majorité, manière de dire dans cet entre-deux-tours que eux c'est eux et nous c'est nous, une majorité, comme vous le voyez, qui peut difficilement se montrer plus soudée.
Karine Bécard en direct de l'Assemblée nationale. Les négociations pour la constitution des listes, c'est jusqu'à ce soir 18h. On a une idée assez précise du paysage. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, ce sera un duel après le retrait de la gauche, entre la droite, centre droit, la liste de Renaud Muselier, le président sortant, 32% des suffrages exprimés dimanche, et l'extrême droite, menée par Thierry Mariani, 36%. PACA, c'est de loin la région où le RN est le mieux placé pour l'emporter. Dans toutes les autres, cela relèverait de la surprise. Et le candidat, Thierry Mariani, était en campagne ce matin à Aix-en-Provence. Reportage France Inter, Élodie Forêt.
Il cherche des cigarettes, fait une blague au journaliste. À cause de vous, ma mère va savoir que je fume de nouveau. Thierry Mariani, souriant ce matin sur le marché d'Aix-en-Provence, veut croire en ses chances.
À vaincre sans péril, en triomphe et sans gloire.
Le péril, c'est le retrait de la liste de gauche menée par Jean-Laurent Felizia et la constitution d'un front républicain. Mais rien n'est joué, martèle Thierry Mariani, prenant l'exemple des municipales à Perpignan.
On est exactement dans la même configuration. Un candidat de droite qui a réussi à agglomérer tous les soutiens les plus contradictoires derrière lui. Une grosse réserve d'électeurs qui ne sont pas allés voter au premier tour. Donc tout est possible.
Tout est possible, à condition de mobiliser.
Il faut pousser vos voisins, vos cousins, il faut pousser tout le monde.
Roger, retraité aixois et adhérent RN, s'y attelle depuis dimanche soir.
Mais lorsque je les rends contre, et quelques coups de téléphone que je donne aussi, j'essaye de les convaincre de bouger. Vous savez pourquoi ils n'y vont pas? Parce qu'ils n'y croient plus, malgré qu'ils aient des convictions.
Roger qui a lui aussi bien du mal à y croire.
Je suis profondément pour M. Mariani, mais je sais pas. J'ai un gros doute, malheureusement.
Gros doute des militants, donc. Les cadres, eux, gardent la tête haute, espérant un sursaut des électeurs RN et un report des voix de la gauche sur LR moins massif qu'en 2015.
Et parmi les enseignements de ce premier tour des régionales, il en est un que l'on n'a pas énormément surligné, c'est que la gauche, au plan national, ne s'en sort pas si mal. Alors tout est relatif, surtout avec l'abstention, mais elle a recueilli, cette gauche, 34% des suffrages exprimés dimanche, quand on totalise toutes les listes, y compris la France Insoumise. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
34 pour la gauche contre 27 à la droite. Elle est un tout petit peu moins morose, cette gauche, depuis ce week-end. Et le rapport de force entre les partis de gauche a évolué.
Oui, alors la gauche, effectivement, est arrivée en tête dans 5 régions.
Oui.
Là où en 2015, au premier tour, elle n'était en position de force que dans 2 régions. Elle avait même dû se retirer en PACA et dans les Hauts-de-France, en appelant à voter pour la droite pour faire échec au Rassemblement National. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, elle se maintient avec une liste unitaire et le PS n'est pas peu fier de ses 40% en Occitanie, 29% en Nouvelle-Aquitaine ou les 21% des socialistes en Bretagne. Pour Pierre Jouvet, porte-parole du PS, la gauche écologiste et sociale prouve sa vigueur.
Et très clairement, de ce bloc social et écologiste, les socialistes restent la force propulsive à gauche et donc c'est porteur d'espoir pour la suite.
Alors si on fait les comptes, le PS est à 18%, les Verts à 13,5% et les Insoumis à 5%. Le député LFI Éric Coquerel concède que les régionales n'étaient pas une priorité pour eux. Il nuance la supériorité du PS.
Il faut faire attention aux faux semblants du bon score du Parti Socialiste ou d'Europe Écologie, parce que le Parti Socialiste, notamment dans plein de régions, régresse considérablement par rapport à 2015. Je pense à l'Île-de-France, par exemple, où ils divisent presque par 3 leurs voix. Et en réalité, ce qu'on observe à ces élections, c'est une primo sortant du fait du Covid.
Qu'importe pour le PS, les bisbilles avec les insoumis, la gauche est en train de déjouer l'affiche annoncée de la présidentielle. Pierre Jouvet encore.
On nous dit depuis maintenant des années que la prochaine élection présidentielle, ce sera un duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce qu'on voit, c'est que les Françaises et les Français qui sont allés voter dimanche, trop peu nombreux malheureusement, ce duel, ils le refusent.
Alors rendez-vous maintenant après la primaire des écologistes en octobre pour refaire le point. Personne n'est capable aujourd'hui de pronostiquer à quoi ressemblera la course de petits chevaux présidentiels à gauche.
Et avant-hier peut-être vous êtes-vous abstenu. Qu'est-ce qui vous inciterait à retourner dans les bureaux de vote? J'attends vos questions, réflexions et témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. On en parle à 13h30 avec notre invité. La fête de la musique qui se termine mal à Annecy. 7 personnes sont toujours en garde à vue ce matin selon nos confrères de France Bleu Pays de Savoie. 7 personnes âgées de 18 à 22 ans. La Chine a-t-elle réussi à tuer la démocratie à Hong Kong? Après la répression du mouvement pro-démocratie de 2019, la mise en place d'une loi très sévère, c'est un journal d'opposition qui est en train d'être maté, le Apple Daily. La semaine dernière, 5 de ses dirigeants ont été interpellés, le siège du journal perquisitionné par plusieurs centaines de policiers et les comptes de l'entreprise ont été gelés. Le Apple Daily vit sans doute ses dernières heures. À Hong Kong pour France Inter, Florence de Changy.
Hier soir, le Apple Daily a diffusé la dernière édition de son journal télévisé en ligne. La présentatrice a rappelé l'importance d'une presse indépendante et remercié les lecteurs. Depuis l'opération de police de la semaine dernière, le directeur et le rédacteur en chef du Apple Daily ont été inculpés de complot en vue de collusion avec des forces étrangères, un crime défini par la nouvelle loi draconienne de sécurité nationale. Ils ont été placés en détention préventive, mais c'est surtout le gel des comptes qui menace la survie du journal, comme l'explique Marc Simon, le conseiller privé du fondateur du journal, Jimmy Lai, emprisonné depuis décembre dernier.
There's really little chance Apple Daily can survive Il y a vraiment peu de chances que le journal puisse survivre si le ministre de la Sécurité n'autorise pas l'accès à l'argent placé sur les comptes qu'il a gelés. Apple Daily ne peut rien faire. Sans argent, on ferme.
Marc Simon est par ailleurs convaincu que Pékin aurait exigé des autorités hongkongaises la fermeture du Apple Daily pour le premier anniversaire de la loi de sécurité nationale imposée par Pékin et promulguée à Hong Kong le 30 juin dernier. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
En France, l'actualité des médias, c'est une radio à la belle et grande histoire qui traverse une crise profonde. Les salariés d'Europe 1 reconduisent la grève. Elle a commencé vendredi à 16h. Audience en berne depuis de longs mois et le climat social devient délétère en cette fin de saison. Ce matin, dans le Figaro, le président d'Europe 1, Arnaud Lagardère, annonce de nouveaux changements sur la grille de programme à la rentrée. Ils marqueront notamment un rapprochement avec CNews. Point commun entre les deux, l'actionnaire principal est Vincent Bolloré. Émission commune entre la télévision et la radio, animée par Laurence Ferrari entre 18 et 19h, Sonia Mabrouk pour animer le rendez-vous politique, là aussi commun le week-end. Autre annonce, c'est Dimitri Pavlenko qui animera l'année prochaine la matinale d'Europe 1. C'est le rendez-vous phare, vous le savez, pour toutes les stations. Il vient, lui, de Radio Classique. Alors Arnaud Lagardère a beau assurer qu'Europe 1 ne passe pas sous la coupe de Bolloré. Les salariés s'inquiètent, peur de devenir une radio d'opinion très marquée à droite. Ils s'alarment aussi d'une gestion des ressources humaines qu'ils décrivent de plus en plus brutale. Bonjour Alexandra Hacoun.
Bonjour Bruno.
Vous êtes au siège d'Europe 1. Les salariés ont donc reconduit la grève ce matin, Alexandra.
Oui, et reconduite à une très large majorité pour cette cinquième journée de grève. Sur 95 votants, 90 ont voté pour, 2 contre, 3 abstentions, avec une interview d'Arnaud Lagardère au Figaro qui a clairement remobilisé les troupes. Olivier Samin, délégué du Syndicat National des Journalistes.
Ça ne passe absolument pas auprès des salariés de cette entreprise. La reconduction de la grève, c'est la réponse que nous faisons à la direction du groupe Lagardère et à la direction d'Europe 1. Nous ne sommes absolument pas d'accord avec ce projet éditorial. Il va falloir mettre en place un dispositif de clause de conscience pour permettre aux journalistes de partir.
Adopté également ce matin, une motion de défiance à l'encontre du directeur général de l'information d'Europe 1, Donat Vidal-Revelle. Les grévistes réclament son départ. Fabrice Laffitte de Force Ouvrière lui reproche notamment des mensonges vis-à-vis des auditeurs. Une direction qui fait tout pour ne pas évoquer la grève à l'antenne.
Des interviews allongées, une météo allongée, c'est vraiment une pauvre antenne, entre guillemets, pas digne de l'image d'Europe 1. Et on nous cache ça. Après, ça peut se comprendre. Hier, on avait plus de 70% du personnel en grève. Mais on le justifie à l'antenne, on explique pourquoi on présente cette hybride d'Europe 1, ce fantôme d'Europe 1. Voilà, moi, c'est ça que je reproche, c'est la malhonnêteté d'antenne.
Voilà pourquoi le mouvement a été reconduit jusqu'à demain 13h, mais des actions autres que la grève sont déjà à l'étude.
Alexandra Hacoun en direct avec les moyens techniques de François Rivalan pour France Inter. Cette information de dernière minute que nous donne Hélène Philly du service économie de France Inter. Un nouveau revers de taille pour le gouvernement. Le Conseil d'État suspend une partie de la réforme de l'assurance chômage. Les nouvelles règles de calcul du montant de l'allocation chômage qui devait entrer en vigueur au 1er juillet. La situation économique ne le permet pas, selon la juge, qui ne remet pas en cause cependant le principe de la réforme elle-même. L'UEFA ne veut pas se mouiller politiquement. L'instance qui organise l'Euro refuse que le stade de Munich arbore les couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT demain pour Allemagne-Hongrie. C'était une requête de la ville de Munich en réponse aux mesures homophobes adoptées par le régime hongrois. La France regrette cette décision de l'UEFA. La Hongrie la salue. Sur le terrain, ce soir 21h, Croatie, Écosse et République tchèque, Angleterre. La dernière place qualificative dans ce groupe se joue entre Croatie et Écosse. Demain, France, Portugal, les Bleus sont déjà qualifiés. Et puis en rugby, la jauge est portée de 5 à 14 000 spectateurs au Stade de France pour la finale du top 14 vendredi. Ce sera Toulouse face à La Rochelle. Avant la météo, avertissement, gare à vous, les chenilles urticantes sont de retour. C'est le cas un peu partout en France. En Normandie, l'Agence régionale de santé appelle à la vigilance, en particulier en Seine-Maritime et dans l'Eure. Ces petites bêtes qui se développent dans les chênes, les pins, les jardins, provoquent démangeaisons, conjonctivite et même maux de gorge. Reportage gratigrata, Rudy Pupin, France Bleu Normandie.
Pascal ne s'est pas promené en forêt, n'a pas non plus aperçu de colonies de chenilles dans les parages près de chez elle, et pourtant elle ressent bien leur présence.
On se gratte presque à 100, c'est l'horreur. C'est des petits boutons et c'est rouge, regardez, on s'en fait des traces sur le bras tellement on se gratte quoi. C'est très désagréable et très urticant. C'est vraiment la première année où que ça m'arrive, j'ai jamais eu ça avant.
Pour Liliane aussi, c'est une première et cette prolifération de chenilles depuis quelques années dans les environs, ça l'inquiète.
Ça gratte, c'est affreux. On se rend compte que ça prend des proportions vraiment
très importante, quoi. Donc ça serait bien de trouver des solutions, s'en débarrasser au plus vite.
Liliane qui repart de sa pharmacie avec une crème. Des crèmes prises d'assaut ces derniers jours, du jamais vu pour Jérémy Boucher, docteur en pharmacie à Gournay.
En ce moment, à peu près la moitié des personnes qui franchissent la porte de l'officine, c'est pour ça. Cette année, c'est vraiment exceptionnel, c'est du jamais vu pour nous. On a été totalement dévalisés dans tous les produits qui peuvent soigner les démangeaisons, que ce soit par voie orale ou par voie locale. On est un petit peu en rupture de tout.
Et quelques conseils sont donnés pour éviter de s'exposer à ses poils, comme aérer son domicile moins que d'habitude et faire sécher ses vêtements à l'intérieur.
Voilà pour ce reportage de Rudy Pupin. Il nous reste à voir le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore des orages, Élodie.
Oui, en effet, c'est souvent instable. Alors, on a malgré tout les régions méditerranéennes qui s'en sortent bien avec du soleil. De la Bretagne vers la Normandie jusqu'au Nord-Pas-de-Calais et aux Ardennes, là, ça va rester très nuageux avec des pluies parfois marquées et parfois orageuses. C'est le cas en ce moment sur la région parisienne. Partout ailleurs, les averses et les orages restent d'actualité. Ils vont se multiplier dans l'après-midi et ils s'atténueront en soirée seulement.
Élodie Calac, Météo France, merci beaucoup. La chronique Europe à suivant.
France Inter. Le 13-14, Bruno Dut.
Avec Delphine Simon, bonjour Delphine.
Bonjour.
On commence avec trois lettres, ZFE. Ce sont des lettres qui inquiètent les fédérations d'automobilistes pour zones à faible émission. Pour améliorer la qualité de l'air, l'État veut multiplier ces zones dans les grandes agglomérations, les secteurs interdits aux véhicules les plus polluants. D'ici à 2024, 45 villes de plus de 150 000 habitants vont devoir y passer. C'est le projet de loi climat discuté en ce moment au Sénat. Mais un vent de contestation monte contre une chasse aux vieilles voitures jugées pénalisantes pour les ménages modestes. Comment ça se passe chez nos voisins européens, Delphine ?
Eh bien, 13 pays en Europe ont déjà des zones à faible émission. Et comme souvent, la Suède fait figure de pionnière. En 1996, Göteborg, Malmö et Stockholm ciblaient déjà les camions diesel et les cars. L'Italie a suivi, puis l'Allemagne, Berlin, Londres en 2008. La France, elle, s'est lancée en 2015. Elle compte aujourd'hui 4 zones. Paris, le Grand Paris, Grenoble et Lyon. Des villes de plus en plus sous la pression juridique en matière de qualité de l'air. 6 pays, dont la France, ont été mis en demeure par la Commission de respecter les directives européennes, assignées en justice même. Tout ça pousse les gouvernements à prendre des mesures. En France, de nouvelles zones apparaissent cette année dans des villes qui dépassent les seuils limites de pollution. Vous l'avez dit, 45 autres doivent suivre d'ici 2024. Objectif, remonter au troisième rang européen derrière l'Italie, la championne d'Europe, et l'Allemagne, respectivement 117 et 90 de ces zones à l'heure actuelle.
Bon, les objectifs, c'est bien, mais quel impact ?
Selon l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, l'efficacité n'est pas contestable. Ça permet d'abaisser de 30% le taux de dioxyde d'azote dans l'air et même de moitié pour certaines particules fines. L'idée, c'est de pousser les automobilistes à changer plus vite de voiture pour acheter de l'électrique ou des hybrides. D'un pays à l'autre, les dispositifs diffèrent. À Bruxelles ou à Anvers, il faut s'enregistrer en ligne et payer un forfait si votre véhicule est trop polluant. À Londres, le péage urbain est augmenté d'une pénalité de 30 euros. Certaines villes choisissent pour contrôler ce dispositif de faire de la vidéosurveillance, d'autres des certificats d'immatriculation ou des vignettes. Certaines ZFE aussi sont assez larges pour ne pas y revenir. 1500 km² pour le Grand Londres. D'autres sont très concentrés sur l'extrême centre de petites villes, parfois sur 2 km² et un centre piéton.
Et le sujet est explosif partout, j'imagine.
Ben oui, ces mesures sont souvent jugées discriminatoires pour les moins aisés, pour les ruraux, car dans certains cas, la mesure favorise effectivement les résidents des centres-villes, souvent plus aisés. Parmi les craintes, la désertification des centres des villes moyennes ou petites et le reste à charge qui reste important pour une voiture familiale en milieu suburbain, sans compter l'investissement économique pour les flottes d'entreprises. Au niveau européen, l'acceptabilité, c'est l'enjeu central. Il faut, dit-on, améliorer les transports en commun, prévoir des dérogations, des aides financières, mais peut-être surtout permettre aux citoyens de s'approprier ces mesures. On est tous d'accord pour mieux respirer. Il est urgent d'agir, disent les députés. Mais il faut prendre en compte aussi l'organisation des villes. Les députés ont commandé en urgence une mission sur ces zones. On attend leur rapport à la fin de ce mois.
Delphine Simon, la chronique européenne dans le 13-14. Et dans un instant, comment faire baisser le taux d'abstention? Abstention, vos questions à notre invité.
Les éditions Radio France présentent Une histoire de la naissance,
de René Friedman. Dans ce livre, nourri de témoignages émouvants et de souvenirs personnels, René Friedman nous embarque dans un fabuleux voyage aux origines de la vie. Des légendes égyptiennes aux plus récentes découvertes, il raconte les progrès de la science et ses combats pour la légalisation de l'avortement ou le premier bébé éprouvette. Une histoire de la naissance, de René Friedman, une coédition France Culture.
France Inter aime
Les Deux Alfred, le nouveau film de Bruno Podalydès.
Je sais même pas pourquoi j'ai été engagé, ni par qui exactement.
Mais c'est quoi le poste ?
Reacting Process.
Denis Podalydès, Sandrine Kiberlin et Bruno Podalydès forment un trio plongé dans une société ultra connectée, mais parfois déconnectée des questions humaines les plus élémentaires.
J'ai un message de ma voiture.
C'est une voiture autonome ?
Ça, c'est la nouvelle tendance. Quoi, je suis parti me brancher à la borne. Mais quelle borne ? Qu'est-ce que quelle est trop conne, cette bagnole, hein ?
Les Deux Alfred, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Il est 13h30.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvy.
Comment renouer le lien avec les électeurs ? Dimanche, un nouveau cap a été franchi dans l'abstention. Les deux tiers des électeurs ne sont pas allés aux urnes. Et l'abstention atteint encore des sommets plus importants chez les jeunes, plus de 80% chez les 18-34 ans. Alors quelle réponse ? Est-ce avec des mesures comme le vote par Internet ? Pourquoi pas le vote obligatoire ? Est-ce dans le discours, la façon de parler, les canaux utilisés par les femmes et hommes politiques ? À quelles conditions les citoyens que le vote ne motive plus peuvent-ils retrouver le chemin des 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. Invité du 13-14, le spécialiste de communication politique et profession Sciences Po, Philippe Moreau-Chevrolet, bonjour.
Bonjour.
Comment avez-vous, vous, interprété le taux d'abstention très élevé de dimanche ?
Alors comme une gifle, hein, comme une gifle pour le coup pas métaphorique, mais à l'ensemble de la classe politique, à la fois où RN, ALREM, après un an et demi où les électeurs, les citoyens ont été extraordinairement maltraités par le politique. On leur a donné des messages contradictoires en permanence, on a beaucoup improvisé dans cette crise, trop improvisé, on les a traités aussi beaucoup comme des enfants et pas comme des adultes. Et au bout d'un moment, je pense qu'un fossé s'est créé qui est devenu un désintérêt, un divorce, où finalement, vous ne vous occupez pas de nous, eh bien nous, on ne s'occupera pas non plus de vous. Finalement, puisque vous ne nous apportez rien, on ne va même pas aller voter. Ça se passe dans beaucoup de pays dans le monde. C'est une crise démocratique assez générale. Ouais. C'est pas que la France qui est concernée. Et c'est une forme de recul où on se dit, bon, qu'est-ce que le politique m'apporte finalement ?
Je voudrais m'arrêter sur le mot qui est fort quand même, maltraiter. Les électeurs ont été maltraités ces 18 mois, à l'heure du quoi qu'il en coûte, à l'heure de la vaccination qui arrivait très vite, des conférences de presse très régulières pour parler de la situation sanitaire.
Maltraité. Ça, c'est toujours le regard du politique. Le politique regarde le court terme, les dernières semaines, en se disant, c'est là qu'on va gagner l'élection, c'est pendant les derniers jours. Et les électeurs, ils retiennent la durée. Ils vivent la durée déjà, donc ils la retiennent. Et oui, la crise a été marquée par un double langage permanent. Regardez même la fête de la musique hier soir.
Ouais.
On a tout mis en œuvre pour que les gens fassent la fête complètement. On leur a, juste avant la fête de la musique, on arrête le couvre-feu. On explique qu'on peut ne pas porter de masque en extérieur. Qu'est-ce que les gens retiennent ? Ils retiennent qu'ils peuvent faire la fête. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent d'autre ? Et en même temps, on va leur envoyer les policiers dans la rue pour dire « Ah non, finalement, les gars, vous n'avez pas le droit au rassemblement.
Ouais. »
Mais attendez, alors vous n'avez pas le droit au rassemblement à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous pouvez quand même faire des concerts. Quand vous vivez un an et demi de ça, c'est de la faute de personne, vous me direz. Ce sont des erreurs collectives.
Mais et c'est une gestion, une crise qu'on gère au jour le jour, où on apprend en permanence aussi.
Oui, mais aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas fait assez attention aux gens, on n'a pas été assez bienveillants. On n'a pas assez réfléchi au fait qu'un message contradictoire, c'était très anxiogène. Et un an et demi de message anxiogène, où le politique n'apparaît que pour vous rendre encore plus inquiet, c'est ça qui crée aussi du déficit de confiance.
Alors on revient sur le discours dans un instant, des questions très, très concrètes, notamment au Standard. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre intervenant. À mon sens, l'abstention ne résulte pas seulement d'un manque de communication, mais d'une faiblesse de l'offre politique. Et deuxième réflexion, une erreur a été commise. Le fait d'avoir couplé les régionales avec les départementales a rendu cette élection illisible pour beaucoup d'électeurs, sachant que chaque collectivité a des compétences qui lui seront propres. les candidats que j'ai beaucoup écoutés, en fait, n'avaient que ne cesse à marteler il faut faire barrage au Front National. Alors ça me semble un peu court comme message, sachant que les collectivités touchent le quotidien quand même des électeurs, l'APA, le RSA, voilà, tout ce qui touche le quotidien proche des électeurs.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez d'offres politiques insuffisantes ou illisibles?
Eh ben, je viens d'expliquer. J'ai écouté nombre de débats et en fait, l'idée phare des candidats revenait sur le principe de faire barrage au Front National. Je vous dis tout de suite que moi, j'ai voté les Verts. Hein. J'ai voté surtout par réflexe citoyen, justement parce que cette offre politique ne m'ouvrait pas des horizons qui pouvaient toucher le quotidien des électeurs, des départements et des régions, concernant les lycées, les collèges, l'APA,
d'autres sujets. Pas assez concret, pas assez précisément sur les enjeux des élections et ce qui relève des pouvoirs des départements et régions. Philippe Moreau-Chevrolet.
Oui, non, c'est très juste. En fait, les politiques qui marchent le mieux aujourd'hui, ce sont les politiques qui font attention aux gens et au quotidien des gens, qui sont dans l'empathie et qui sont dans la bienveillance. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les attitudes ultra-agressives qui rapportent nécessairement le plus en termes de voix. Ça va capter beaucoup d'attention médiatique, mais ça va pas forcément se traduire en vote, parce qu'on va bien aimer se défouler avec eux, mais on va pas nécessairement adhérer à leurs propositions. C'est tout le problème de l'extrême droite. C'est pour ça que Marine Le Pen essaie de se centriser, de devenir un peu plus acceptable, et qu'en même temps elle perd du poids politiquement. Ouais. Parce que c'est difficile d'être les deux à la fois, et on a plus envie évidemment de quelqu'un qui va apporter des solutions positives, mais en même temps on va moins lui prêter attention. Donc c'est un peu le piège de la situation politique actuelle. Les politiques sont du coup tentés de se dire si je fais du bruit, ça suffit. Mais en fait, quand on arrive aux urnes, eh ben non, ça suffit pas. Il faut aussi proposer des choses quotidiennes. C'est pour ça que Rachida Dati a bien fonctionné à Paris. Elle a fait une campagne au fond assez peu bruyante, mais très axée sur le quotidien. Joe Biden, pareil. Il n'a pas fait une campagne axée sur Twitter, mais sur les problèmes du quotidien. Et en fait, on a envie de politiques qui reviennent sur Terre avec nous, là où on habite.
Donc, l'idée que le lien avec les électeurs passerait par plus de présence sur les réseaux sociaux, c'est une idée erronée de votre
Non, c'est vrai, mais c'est une présence qui doit être utile aux gens, si vous voulez. Soit ça peut être du divertissement pur, et dans ce cas on fait McFly et Carlito, et pourquoi pas, les gens aiment bien avoir du divertissement. Mais ça peut aussi être, et c'est le plus souvent, et ça doit aussi être, de l'attention portée aux gens. Typiquement, c'est la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, qui va s'asseoir sur son canapé après avoir couché ses enfants, qui va dire, voilà, je suis sur mon canapé, je viens de coucher mes enfants, je vous fais un Facebook Live tout de suite, je vais répondre à vos questions, voilà les mesures qu'on est en train de prendre, et qui le fait avec sympathie, horizontalité, bienveillance. Parce qu'il n'y a pas besoin des ordres de la République et de 25 gardes républicains pour toucher le cœur des gens. Au contraire, il faut trouver en France une nouvelle manière de communiquer politiquement. Il faut sortir de cette idée qu'on a besoin d'avoir les ordres de la République à chaque fois.
Vous parliez de McFly et Carlito, donc c'est la vidéo du président de la République à l'Élysée avec les deux youtubeurs. En gros, il y a deux camps. Il y a ceux qui trouvent ça délétère pour la politique et ceux qui disent, bah voilà, on a un président qui se mouille un peu qui sait se détendre. Il y a peut-être un moyen terme. Vous êtes où, vous?
Moi, je pense que c'est un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'au moins, on va essayer de communiquer sur les réseaux sociaux, au moins, on va essayer de parler un langage commun, on va utiliser des créneaux communs. Après, le problème, c'est que c'est un gadget, et le problème, c'est que ça sort pas de l'habitude de la Ve République, qui est que le président, vous savez ce que disaient les guignols du prince du Qatar, il te parle pas à toi, c'est un peu ça, quoi. Il va parler aux journalistes qui vont te parler. C'est un peu le même problème. Ce qu'on aimerait, c'est que comme quand il a été malade du Covid, je trouve que c'est son moment le plus intéressant en communication. Il a pris un appareil, il s'est filmé tout seul parce qu'il pouvait pas faire autrement. Et ben moi, je l'ai trouvé sympathique à ce moment-là. Je l'ai trouvé humain, proche, etc. Beaucoup plus que dans tout le reste.
Christophe au standard. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Ouais, ma remarque en fait était la suivante. Donc ce week-end, moi j'ai voté par procuration. Nous étions en fait avec un groupe d'amis, on était 7 en fait en week-end. Et lors d'un apéritif, on discutait et ils m'ont tous dit en fait que globalement ils n'avaient pas eu le temps de pouvoir faire leur procuration. Et par contre, ils pensaient que potentiellement moderniser le système de vote pourrait être intéressant parce qu'ils avaient tous à peu près lu et s'étaient fait une idée en fait de qui et pour lequel ils pouvaient voter.
Donc s'ils avaient pu voter par internet, en clair, ils l'auraient fait.
Bah, potentiellement, oui, pendant la période où on était justement détendu et tranquille, et ben, ils auraient très bien pu prendre 5 minutes pour faire leur vote et ça aurait été fait.
Philippe Moreau-Chevrolet là-dessus, et puis j'ajoute la remarque de Jamel sur l'appli, pourquoi pas une application élection sur notre portable?
Alors, il a complètement raison, Jamel. Il n'y a aucune raison, avec les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui, qu'on puisse pas faire une appli élection. Alors, il s'agit pas de faire du Tinder avec je swipe à gauche ou je swipe à droite et je vote, mais on pourrait quasiment imaginer un système aussi simple que ça. On arrive à payer ses impôts à distance, qui est quand même, excusez-moi, mais un tout petit peu engageant.
Comme geste citoyen, oui.
Comme geste citoyen. Ouais. On arrive à faire avec France Connect aujourd'hui des choses extraordinaires dans les gestions des assurances privées, dans la gestion des sinistres, etc. On fait vraiment des choses très intéressantes.
Et sécurisées.
Et sécurisées complètement. On peut imaginer d'appliquer ça au vote. Il y a, je pense, un seul obstacle qui est le conservatisme des politiques qui ont toujours peur d'aller dans les nouvelles technologies.
Alors, je vais jouer les conservateurs. Il y a des rites aussi en politique. Le jour du vote, le moment où on va éventuellement avec ses enfants et on leur explique le bulletin de vote, l'isoloir, etc. Le vote par Internet va contre cette idée de rite citoyen, entre guillemets.
Bon, on peut avoir les. Déjà, il faut avoir les deux. On va pas supprimer les bureaux de vote.
Bien sûr, évidemment.
Vous pouvez, si vous voulez, Bruno, aller payer vos impôts toujours avec vos enfants pour leur expliquer comment ça se passe, la fiscalité, au centre des impôts à côté. Ouais. Vous pouvez toujours le faire.
Mais vous voyez le sens de ma question, le
oui,
côté...
Oui, je vois bien. Mais ça changera rien. On sera toujours dans une communion le même jour. On votera toujours pour les mêmes candidats sur des programmes. On sera toujours dans un débat. C'est juste, ce sera plus pratique, ce sera plus rapide, ce sera moins accaparant et ça correspond plus aux usages d'aujourd'hui. Il faudrait presque aller vers quelque chose de ludique pour que les gens continuent à voter. C'est presque ça.
Vote obligatoire et reconnaissance du vote blanc, qu'en dites-vous ?
Alors, le vote obligatoire, ça fonctionne pas, ou alors il faut vraiment avoir un degré de d'amende et d'application qui soit vraiment tout à fait dissuasif. Mais en Belgique, par exemple, ça fonctionne pas très bien. Les gens vont pas plus voter nécessairement. Ils payent pas leurs amendes non plus. C'est pas très appliqué, quoi.
Ouais.
Non, malheureusement, il faut motiver les gens, les obliger, ça fonctionne assez peu. Reconnaissance du vote blanc, oui. Alors ça, c'est un peu un serpent de mer. À chaque fois, on dit, il faut reconnaître le vote blanc. Et au final, on ne le fait pas. Non. Malheureusement, les politiques n'entendent pas cette chanson-là. Les politiques reconnaissent qu'une seule chose, c'est le rapport de force.
Jean-Louis, au Standard de France Inter. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour. Moi, je m'interrogeais un peu sur le rôle des médias.
Oui.
Moi, je n'écoute que la radio, je n'ai pas la télé. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de débats et très peu d'invités qui tournaient, ou de thématiques qui tournaient autour des élections. Je remets en cause un petit peu France Inter. Par exemple, le téléphone sonne, on a abordé les élections le 4 juin dernier et plus depuis.
Ok. Alors, j'ai pas le programme du téléphone sonne.
C'est un peu dommage, quoi. Voilà.
Ok, bien noté. J'ai pas le programme du téléphone sonne sous les yeux. On a essayé de parler aussi des enjeux, mais la question mérite d'être posée pour France Inter et pour les autres. Est-ce que il y a une part de responsabilité des médias dans cette abstention qui ne, comment dire, raconte pas la politique comme il faudrait, disons-le comme ça.
Alors, c'est aussi l'argument des sondeurs qui disent c'est vrai, on s'est trompé, mais en même temps, tous les Français ne savaient pas qu'il y avait cette élection.
Ouais.
J'ai envie de dire, c'est le juge de paix, ce sera le deuxième tour. C'est là qu'on verra si cet argument tient ou pas. C'est-à-dire si les médias n'ont pas assez parlé de ça et que ça a provoqué une baisse de participation. Si on constate au deuxième tour un regain de participation sans qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'enjeux qu'au premier tour, il faut bien l'avouer politiquement, ça va être dans ce sens-là. Ça va valider cette interprétation-là. Moi, j'ai du mal à croire à ça parce que je pense aussi qu'on a envie de passer à autre chose et qu'on n'a plus envie de tension au sortir de la crise du Covid, enfin au sortir, dans cette respiration en tout cas.
C'est-à-dire que l'idée qu'il y a des moments où on n'a pas la tête à la politique, ça vous validez entre guillemets ?
Ouais, ça fait un an et demi qu'on a la tête que dans la crise, quoi.
Et donc on n'a pas envie de voter, il y a un lien entre les deux.
Oui, je pense qu'il y a une volonté de passer à autre chose globalement, qui pourrait être au détriment politiquement en 2022 d'à peu près n'importe qui. On ne sait pas qui peut en bénéficier ou qui peut en souffrir. Mais oui, il y a une fatigue démocratique.
Un mot pour revenir sur les médias, il nous reste vraiment une poignée de secondes. Au-delà de on parle ou pas assez en quantité d'une élection, est-ce que c'est la façon, encore une fois, de parler de la politique qui pose problème dans les médias et qui donne pas envie de s'y associer et d'aller voter ? Philippe Morochevrolet.
Alors oui, ça peut jouer au sens où si vous canalisez le débat que sur des sujets qui sont importants mais qui concernent qu'une minorité de gens... évidemment, vous n'irez pas vers la majorité. Je veux dire, on peut s'intéresser tout à fait légitimement à plein de sujets comme l'immigration ou la sécurité. Mais si on ne parle que de ça et jamais des enjeux du quotidien, jamais de finalement, je sais pas moi, de la prise en charge des enfants à l'école par période de Covid, des choses compliquées mais qui font le quotidien. Si on parle jamais de ça, ben oui, les gens vont pas aller voter parce que tout simplement pour eux, faire de la politique, ça se résumera à allumer la télé.
Merci Philippe Morochevrolet d'être venu dans les studios de France Inter. 13h44.
France Inter,
le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Il y a 80 ans, commençait l'opération Barbarossa.
22 juin, 3h30, quelques 3 millions d'hommes envahissent l'Union soviétique.
Vous nous racontez dans 10 minutes. Avant cela, deuxième épisode de notre feuilleton, une semaine avec les assistantes sociales de Trappe dans les Yvelines. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Il y a exactement 52 ans disparaissait l'actrice et chanteuse Judy Garland. À votre micro, pour parler d'elle, l'autrice franco-américaine Susie Morgenstern, papesse de la littérature jeunesse. Elle vient notamment de publier chez Dargo, La Petite Dernière.
Un roman graphique dans lequel elle retrace l'année de ses 10 ans. Dans le New Jersey, 1955, famille juive de 3 enfants, Susie a 2 grandes sœurs et c'est à cette période qu'elle entend pour la première fois la chanson dont elle a choisi de me parler, Over the Rainbow, enregistrée par Judy Garland pour le film Le Magicien d'Oz, adapté du roman pour enfants du même nom. Ce titre est le grand tube de Judy Garland, qui d'ailleurs avec les années étaient de plus en plus lasses de le chanter. Mais Susie Morgenstern, elle ne s'en lassera jamais.
C'est une chanson qui réunit deux de mes domaines de préférence, c'est-à-dire les livres pour enfants et la comédie musicale. C'est une chanson que j'ai toujours chantée, que j'ai toujours aimée. Et c'est une très belle histoire avec tout le symbolique de l'espoir que les choses iront mieux. On peut l'appliquer à nos jours, l'espoir de disparition du Covid, peut-être.
Parce que c'est une chanson précisément qui dit « Demain, ce sera mieux qu'aujourd'hui ».
Oui, oui, demain, ça sera mieux. J'essaie de vivre beaucoup dans le maintenant. J'aime beaucoup ici et maintenant, mais il y a des moments où l'espoir du demain nous aide à vivre.
Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez découvert cette chanson-là?
Dans le film Le Magicien d'Oz, et ça me ramène à notre activité avec mes sœurs qui consistait à s'étaler au lit de nos parents où il y avait une télé qui avait la taille de l'écran de téléphone et il y avait une émission l'été qui s'appelait Million Dollar Movie, où on montrait le même film 4 fois par jour, 7 jours par semaine, et on connaissait tous ces films par cœur.
Quand vous regardiez ce film-là, quand vous entendiez cette chanson-là, vous rêviez à quoi?
À chanter comme Judy Garland, à être un star comme elle, bien qu'on la trouvait peut-être un peu mal formée, enfin, on trouvait toujours des tares à des actrices, pas sa voix, mais son corps. Alors nous, on était 3 grosses filles, et elle, c'était un star, mais trouvait que c'était pas mérité parce qu'elle était pas si belle. On trouvait que tout le monde était moins bien que nous. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane.
Là, c'est plus Judy Garland.
Non, c'est la jeune chanteuse et actrice française Marie Hopper. Susie Morgenstern tenait beaucoup, beaucoup à ce que l'on écoute sa version.
Marie Hopper, qui est l'étoile montante de la comédie musicale française, est entrée dans nos vies avec mon petit-fils Noam. Il l'a accompagnée dans son examen de chant du bac. Et puis, ils vivent ensemble. Et c'est mon espèce de petite fille, en quelque sorte.
Qu'est-ce qu'elle a de singulier, sa version?
C'est différent de tout ce que j'ai connu. Il a peut-être the French touch. Et puis je voulais la pistonner. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where. Oh,
Over the Rainbow par Marie Oppert. C'était donc le choix de Suzy Morgenstern, Frédéric.
Formidable Suzy Morgenstern, ouais. Qui vient donc de publier chez Dargaud La Petite Dernière, ainsi que Mes 18 Exils, son autobiographie, chez l'Iconoclaste.
À demain.
À demain.
À 13h50, suite de notre feuilleton avec les assistantes sociales de Trappe dans les Yvelines. 5 épisodes préparés par Mathilde Dehimy pour mieux comprendre ce que font concrètement ces travailleurs sociaux, bien souvent des femmes, qui ont eu un rôle clé ces derniers mois. À Trappe, 32 000 habitants, l'équipe de 19 personnes qui travaillent pour le département des Yvelines a eu 5 000 dossiers à gérer en un an et demi. Des personnes à aider dans leur démarche pour un logement, une aide alimentaire, une prestation sociale. Et cela amène à aller très précisément dans la vie quotidienne des personnes. Par exemple, cette dame qui a du mal à gérer son budget et que Magali reçoit dans son bureau.
Bon, là aujourd'hui, on se voyait pour un petit peu la situation budgétaire parce que c'était un peu compliqué, on a vu la dernière fois. Mmh. Je me souviens qu'il y avait une grosse facture d'énergie, c'est ça que vous m'aviez dit ?
L'énergie, les loyers. Là, je ne sais pas pourquoi la CAF m'a donné que 1100. Normalement, je reçois 1400. Là, Brian, il travaille, il m'a donné ce fils de paye. C'est ça qu'il reçoit.
Alors,
tous les
c'est
mois.
Celle-ci de oui. Brian.
Moi, je déclare toujours mes deux enfants qui travaillent.
Ouais.
Marie-Angélique et Brian.
D'accord. On va aller consulter le site de la CAF, voir si on trouve des réponses à pourquoi ça a diminué ce mois-ci.
Normalement aussi, on reçoit le prime d'activité.
Ouais.
Mais peut-être ça aussi, parce qu'on a déclaré plus, trop tard.
Ça veut dire que vous n'avez pas touché de prime d'activité depuis le mois d'août ? Je comprends pas pourquoi.
Les primes d'activité, c'est pour tout le monde, non ?
La prime d'activité, c'est quand les personnes travaillent, que leurs salaires sont inférieurs à un montant qui est fixé par l'État. Là, comme c'est suspendu et qu'ils ne vous le versent pas, ce qu'on va faire, c'est je vais faire un mail à la CAF pour leur demander pourquoi. Et je pense que ça serait bien que vous aussi, vous puissiez les appeler ou essayer de leur demander aussi pourquoi ils ne vous versent pas la prime d'activité.
Pas à... J'ai téléphone.
Ils ont changé de numéro. Ils sont au 3230. Là, je vais aller faire les photocopies et je vais vous ramener mes coordonnées, enfin, avec l'adresse mail, du coup, d'abord. Ok. Au revoir.
Peut-être décrire votre bureau quand même un petit peu.
C'est un peu le bazar. Là, par exemple, à gauche, il y a mes piles de ce que je dois ranger, de ce que j'ai fait. Puis à droite, c'est ce qui me reste à traiter. Ça donne une idée du volume, c'est important. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'entretiens. Il va falloir que je fasse les suites, donc les rapports, les coups de fil aux partenaires. Il y a tout le travail derrière, tous les formulaires, tout l'administratif qui nous prend beaucoup de temps.
Est-ce qu'ici, voilà, on sent particulièrement la crise économique ou la crise même psychologique? Le confinement a eu des conséquences, j'imagine, ici à Trappe.
Sur Trappe, on a beaucoup de personnes qui sont non qualifiées ou sous-qualifiées. Et c'est vrai que là, avec le Covid, toutes les personnes qui avaient un CDI ont eu droit au chômage partiel, mais toutes les personnes qui étaient en intérim n'ont pas été renouvelées et n'ont pas eu droit à ce chômage partiel. Et du coup, c'est vrai que les situations se sont beaucoup précarisées. On rencontre de plus en plus de personnes qui, avant, avec un salaire ou deux salaires, se débrouillaient. Aujourd'hui, le moindre accident de la vie, ça peut vite causer des catastrophes. Par exemple, dans les supérettes, ils ont des contrats de 20 heures ou 25 heures, ce qui fait que c'est des salaires qui sont très justes. Et en même temps, ça ne leur permet pas, au vu des horaires, de chercher autre chose à côté. Puis après, il y a les accidents de la vie. Voilà, un divorce, une séparation, un décès, un handicap, et puis tout s'écroule. Et puis, il y a aussi plus d'isolement et donc de fragilité psychologique, on va dire.
Ça va faire bientôt 20 ans que vous faites ce métier. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé et qu'est-ce qui vous plaît encore aujourd'hui ?
Moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir apporter un petit déclic aux gens pour qu'ils puissent changer un peu leur vie. C'est très ambitieux comme projet. Chacun peut avoir la place qu'il mérite et qu'on est peut-être un petit peu là pour aider ceux qui ont plus de mal que les autres à retrouver une place.
Le feuilleton, la suite demain au micro de Mathilde Dehimy.
France Inter. Le 13-14.
Pour l'instant, c'est l'heure du vif de l'histoire avec Jean Lebrun. Il y a 80 ans, 22 juin 1941, commençait une opération décisive pour l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique par les troupes d'Hitler. Avant le déclenchement de cette offensive, à 3h30 du matin, on pouvait penser qu'on était parti pour une longue guerre d'usure sans qu'une décision n'intervienne clairement, Jean.
Récapitulons, Hitler avait gagné la bataille de France, Churchill la bataille d'Angleterre. Et il disait, Churchill, nous nous défendons contre une bande de gangsters nazis qui se répand sans cesse sur de nouveaux terrains, telle une nuée de sauterelles rampantes. Là, vous avez parlé de chenilles urticantes tout à l'heure, les sauterelles, c'est pas sûr qu'elles rampent. Mais on voyait, en effet, à cette époque, les Allemands stoppés à grand-peine à Tobrouk, en Libye, non loin de la frontière égyptienne. On les voyait envahir la Yougoslavie et la Grèce, et ce même printemps, l'Irak britannique passait à une camarilla alliée de Hitler. Il y avait une vraie bonne nouvelle, cependant, en ce moment, l'annonce par les Américains de la loi dite du pré-bail qui leur permettait d'envoyer aux Anglais beaucoup de matériel en retardant les paiements. Roosevelt avait eu cette image dans une conférence de presse. « La maison de votre voisin est en feu. Ben, vous allez évidemment lui confier votre lance et lui offrir votre pompe, même si vous n'êtes pas sûr qu'il puisse vous rembourser un jour pour votre aide. » Avec le pré-bail, Churchill pense que les démocraties ne peuvent plus perdre.
De son côté, Hitler a décidé d'attaquer l'Union soviétique dès la fin de 1940.
Oui, alors il écrit plus tard à Mussolini que c'était pour lui une torture mentale que de rester lié par le pacte germano-soviétique de 1939. Hitler brûle de jouer à carte découverte. Le nazisme doit apparaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'antithèse du judéo-bolchevisme. Le pré-bail l'a fait réfléchir aussi. L'autre ennemi avec lequel il faudra en découdre un jour, c'est le judéo-capitalisme. Se débarrasser rapidement de Staline, alors que Roosevelt n'a pas encore reconstitué une armée de terre digne de ce nom, ce serait éloigner la perspective d'une intervention américaine en Europe, où le Troisième Reich veut préparer un règne de 1000 ans.
Staline, lui, ne veut pas croire au retournement de son allié de l'année précédente.
Non, lui, il croit que la logique de la Realpolitik contraindra Hitler à la mesure. Il ne comprend pas la démesure du nazisme. En revanche, il ne veut rien savoir des informations que lui fait passer Churchill. Intoxication de l'impérialisme bourgeois, répète-t-il. Et quant aux avertissements qui viennent de ses propres agents, Richard Sorg, par exemple, qui opère alors à Tokyo, il n'en veut rien savoir. L'ambassadeur allemand à Moscou, lui-même, Schulenburg, un aristocrate anti-nazi, le prévient en vain. Une centaine d'indications de toutes sortes lui parviennent qui concordent, il n'en fait rien.
Et pourtant, le 22 juin, avant l'aube, une même heure a été communiquée aux officiers de plus de 150 divisions d'infanterie allemande, de 17 divisions blindées, 15 divisions de Roumains et de Hongrois. L'assaut terrestre est combiné avec l'intervention de près de 3000 avions qui détruisent en quelques heures une soixantaine d'aéroports soviétiques et 2000 appareils.
Et Staline, stupéfait, en reste prostré pendant des jours. C'est seulement le 3 juillet qu'il parle enfin à la radio, ne s'adressant plus à des sujets ou à des camarades, mais à des frères et sœurs. C'est le début d'un grand rassemblement, non pas soviétique, mais patriotique. Encore un peu de temps et les Allemands vont s'apercevoir qu'ils se sont hasardés bien en avant dans des marches épuisantes, alors que subsistent un peu partout des zones de résistance. Auront-ils vraiment scellé leur réussite avant le terrible hiver russe?
Du côté britannique, la satisfaction l'emporte sur l'inquiétude?
En tout cas, Churchill, qui a été tellement anticommuniste, eh bien, il n'hésite pas un instant. Il oublie tous les vieux motifs d'opposition. Il nous faut tendre la main à des humains qui sont comme nous en détresse et même dans une situation pire, puisque Hitler a prévu de faire vivre ses 3 millions de soldats sur le pays, mais aussi de faire mourir davantage de Russes encore de famine. Encore quelques semaines et le pré-bail américain s'étendra à la Russie. L'assaut du 22 juin contre le judéo-bolchevisme va hâter celui avec le judéo-capitalisme américain. Barbarossa, du nom d'un empereur du Saint-Empire romain germanique du Moyen-Âge, précipite l'apocalypse qu'attendait au fond de lui-même le fourreur.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire avant 14h tous les jours sur France Inter.